Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue dans Apolline Matin. On est mercredi 29 avril, écoutez, c'était hier soir sur RMC.
On va voir ce qu'il y a, qui va aller déborder sur le côté gauche dans la surface de réparation, se met sur le pied droit.
Et 5-4 dans un match de légende au Parc des Princes, PSG Bayern Munich. Si vous avez vu ce match, vous vous en souviendrez, je pense, somptueux, dit le Parisien, prodigieux, dit l'équipe. Et vous, vous dites quoi au 32-16 ce matin? Vous avez déjà vu un match comme ça? On a eu droit à du grand football, de grandes émotions. C'est à la une du journal de 7h de Thibaut Texer dans un instant. Et juste après, on réveille Jean-Louis Tour, qui était au commentaire hier soir sur RMC. Puis Daniel Riolo passe en studio à 8h. Je vous attends ce matin au 32-16. Et vos messages, bien sûr, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. N'hésitez pas à prendre la parole. À la une aujourd'hui, le retour du site Coco, plateforme de rencontres anonymes qui a juste changé de nom, c'est Cocoland maintenant. Je vous explique, c'est une plateforme nommée dans 23 000 affaires pénales, agressions sexuelles sur mineurs, viol, trafic de stupéfiants, violence homophobe. C'est cette plateforme qu'utilisait Dominique Pellicot pour recruter les violeurs de sa femme. Eh bien, comment est-il possible que ce commerce perdure en ligne? Est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on lutte assez contre la pédocriminalité en ligne? Ça vous fait peur? Est-ce que, question délicate, est-ce que vos ados ont déjà été approchés? Dites-le nous ce matin, racontez-nous au 32-16, entre autres sujets qu'on développe ce matin, à suivre le journal. Je vous l'ai dit, mais tout de suite la météo avec Charlène Villemer. C'est fini le beau temps?
On a une France coupée en deux entre l'Ouest et l'Est aujourd'hui. Alors à l'Ouest, on attend des orages en fait aujourd'hui. Ils sont déjà très présents ce matin en Bretagne. La perturbation, elle va évoluer toute la journée pour atteindre Bordeaux d'ici ce soir. Des orages aussi à prévoir sur le Pays Basque et puis près des frontières suisses à l'Est. Côté Mercure, ça chauffe. On attend des températures 3 à 5 degrés au-dessus des normales. On aura 22 à Metz cet après-midi, 23 à Rennes, 25 à Montélimar, 26 à Cognac et jusqu'à 28 degrés près d'Angoulême.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
17h sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un match qui marquera l'histoire du foot. Le PSG a remporté sa bataille face au Bayern Munich hier soir en demi-finale aller de Ligue des Champions, 5 buts à 4. Un témoignage RMC, celui de la mère de Manon Rolando. Elle espère avoir des nouvelles de sa fille disparue fin mars près de Nantes, après l'interpellation de son compagnon, c'était lundi en Algérie. Et le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, toujours hors service, impossible de refaire ses papiers d'identité en cause le renforcement de la sécurité du port après une cyberattaque mi-avril.
Je crois qu'on peut le dire, hein. Une soirée historique au Parc des Princes.
Le foot dans ce qu'il a de plus beau, 9 buts inscrits du jamais vu dans une demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiens s'imposent face au Bayern Munich, 5 buts à 4, souvent brillants, parfois fébriles. Le PSG s'offre un petit but d'avance avant le match retour au terme d'une soirée Valentin Germain qui restera dans les mémoires.
Oui, Paris a beau avoir mené de 3 buts avant de voir le Bayern revenir à 5-4. Les supporters sont juste heureux d'avoir vécu ce moment d'histoire.
J'ai même pas les mots, quel match historique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a vu là? C'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Hein.
On n'attendait pas tant, hein.
On a perdu la voix tellement que c'était beau.
C'était incroyable le scénario, on l'attendait vraiment pas. Quel moment?
9 buts marqués, c'est du jamais vu dans une demi-finale avec un scénario fou. Le Bayern a ouvert le score, puis Paris a donc compté 3 buts d'avance à l'heure de jeu avant de subir. Le milieu parisien Vitinha a du mal à réaliser.
C'est le meilleur match que j'ai participé. C'est un plaisir de jouer dans cet niveau. Tu te rends un peu quand tu joues, mais à la fin, c'est vraiment quand tu t'assis un peu et tu dis 5-4 quand même.
Des gestes techniques parfaits, des courses, des pénaltys, des stars, Dembélé, Olise, Kane qui marque. La presse étrangère parle d'apogée de la haute performance, de talent phénoménal et l'entraîneur parisien Luis Enrique est d'accord.
Ça a été un match incroyable. L'intensité du match a été exceptionnelle. Je suis tellement fatigué.
Son adversaire, Vincent Kompany, suspendu d'y avoir eu du mal à réaliser depuis les tribunes. Il sera bien sûr le banc mercredi prochain pour ce qui pourrait être un nouveau combat de boxe.
Et ce sera à vivre sur RMC, tout comme la deuxième demi-finale de cette Ligue des Champions qui oppose l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à Arsenal ce soir, 21h. C'est à vivre en intégralité sur RMC, suivi de l'afterfoot et des nuits du Casar enchaîné.
Et on appelle Jean-Louis Tour, on le réveille juste après votre journal. Et vous, vous intervenez au 32-16, vous avez suivi ce match. Supporter parisien ou non, hein, d'ailleurs vous avez aimé le football que vous avez vu, 5-4, quel match on vous attend ce matin? Il est 7h03 sur RMC. Elle n'a plus donné signe de vie depuis plus d'un mois.
Manon Rolando, mère de famille de 31 ans, disparue fin mars près de Nantes. Sa fille de 15 mois également disparue a été retrouvée en compagnie de son père, interpellé lundi soir en Algérie. Arrestation qui redonne un peu d'espoir à la famille de l'agricultrice, sa mère. Attend des réponses. Notre correspondant dans l'Ouest, Martin Lange, a pu la joindre. C'est un témoignage RMC.
Le visage caché par ses lunettes de soleil, la maman de Manon Rolando attend désormais des réponses du conjoint de sa fille.
J'espère que Karim va dire la vérité, va répondre à toutes mes questions. Je ne sais pas si elle est au ciel, je ne sais pas si elle est en détresse, j'en peux plus. Donc peut-être que Manon m'entend. Hein, ma chérie, garde ta force, tu sais, on t'aime. Et puis on t'aidera à remonter ça.
31 jours après la disparition de Manon, elle veut croire que sa fille est toujours vivante.
Et j'ai des moments... très sombre, de plus en plus sombre parce que le temps passe. Je me dis peut-être que c'est une illusion que je fais, peut-être que je me rende à l'évidence.
Manon avait rencontré Karim il y a 3 ans et demi via un site de rencontre. Un coup de foudre réciproque, mais très vite le comportement du conjoint alerte la famille.
À chaque fois j'y allais, il faisait une crise, il faisait des colères. C'est là que Manon m'a avoué qu'elle n'en pouvait plus, qu'avec Karim c'était très très compliqué. Et c'est là qu'elle a commencé, fin novembre, à me parler.
La jeune femme prend rendez-vous avec une association d'aide aux femmes victimes de violences début avril. Elle ne s'y rendra jamais. Désormais, sa maman espère avant tout revoir sa petite fille.
Ramenez-moi Inaya, ramenez-la en France. Sa vie, c'est en France aussi.
La petite fille de 15 mois est aujourd'hui en Algérie entre les mains de sa grand-mère paternelle.
À retenir également cette enquête ouverte par le parquet de Paris après la réouverture de la plateforme Coco, nommée dans 23 000 affaires pénales citées dans l'affaire Mazan. Le site avait été fermé en 2024. Il ressurgit dans une nouvelle version, désormais appelée Cocoland. Le principe reste le même, basé sur l'anonymat. Il permet notamment aux prédateurs sexuels d'entrer en contact avec de jeunes mineurs. Notre journaliste Julie Brault a pu le constater. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30.
Et la haute commissaire à l'enfance sera mon invité à 7h40 tout à l'heure sur RMC. 123 millions d'euros, c'est ce qu'il manque à la métropole Aix-Marseille pour être à l'équilibre.
Et pour marquer le coup comme un SOS adressé au gouvernement, les élus de la métropole ont renoncé hier à voter le budget pour 2026. Et la conséquence très concrète pour la métropole, c'est qu'elle pourrait, et c'est rare ici, Mana Jojard, se retrouver sous la tutelle de l'État.
Oui, à partir de vendredi, le préfet pourra saisir la Chambre régionale des comptes qui aura un mois pour formuler un budget. Entre-temps, les salaires des agents seront payés, mais il n'y aura pas de nouveaux investissements. Par ce geste, la métropole espère alerter l'État sur les conséquences de ces coupes budgétaires. Nicolas Isnard est son président.
Il manque 123 millions d'euros à la métropole pour équilibrer son budget. Ça correspond peu ou prou aux 120 millions qui ont été enlevés par l'État dans les dernières dotations.
Une décision soutenue par les 92 maires métropolitains, toutes tendances confondues, comme Benoît Payan, le maire de Marseille.
Il manque beaucoup d'argent dans les caisses. Cet argent, il manque parce que l'État se sert en partie dans les caisses des collectivités territoriales. Alors, il le fait à la métropole, il le fait au département, il le fait à la mairie de Marseille. Cet argent, il appartient aux habitants de ce territoire. Il sert à faire rouler des métros, il sert à ramasser les poubelles. Ce sont des impôts des Marseillaises et des Marseillais qui viennent combler en partie le trou de l'État.
En attendant le budget proposé par la Chambre régionale des comptes, la métropole prévoit de son côté d'engager un vaste plan d'économie sur ses dépenses.
L'ouverture des boulangeries et des fleuristes le 1er mai sous condition et en 2027, il faudra pour cela le vote du Parlement. Le gouvernement présente son projet de loi ce matin au Conseil des ministres et appelle pour cette année les inspecteurs du travail à la clémence. Vous l'avez peut-être constaté si vous avez tenté de faire vos papiers d'identité récemment, le site de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, est toujours hors service. Impossible d'accéder au portail depuis maintenant 5 jours en raison d'un renforcement de la sécurité du site, conséquence d'une cyberattaque d'ampleur qui a touché la plateforme mi-avril. Plus de 11 millions de comptes pourraient être concernés par un vol de données dans ces conditions difficiles pour les usagers d'entamer leur démarche. Reportage en Gironde de notre correspondant Pierre Bourgès.
Oui, pour renouveler ses documents d'identité, fini la pré-demande en ligne. Il faudra désormais tout faire en mairie, ce sera donc un peu plus long. Mais là où ça bloque vraiment, c'est pour passer le permis de conduire.
Depuis vendredi, là, j'ai mis à peu près une dizaine de dossiers en attente.
Sandra Carrasco est responsable d'une auto-école.
On a besoin d'un numéro, le NEPH, pour pouvoir démarrer la formation de pratique, ou même pour qu'ils passent le code, et ça on l'a pas.
Le ministère de l'Intérieur annonce une période de tolérance pour que les nouveaux élèves puissent démarrer leur formation pratique sans numéro NEPH, mais en attendant, les dossiers s'accumulent.
d'ici la fin de la semaine, là, ça va vraiment poser un problème. Au-delà, ça va devenir ingérable.
Pour les nouvelles cartes grises, si vous avez acheté un véhicule à un particulier, l'application simplimat.gouv remplace l'ANTS pour faire ses démarches. En revanche, si le véhicule est importé, ça peut coincer. Exemple, dans cette concession de véhicules américains, les clients de Nadège n'ont plus beaucoup de temps pour être en règle.
L'ANTS étant en panne, on ne peut pas reprendre le dossier, donc le dossier n'avance pas et le client ne va plus pouvoir rouler avec son véhicule. Alors, ils comprennent que l'ANTS a été piratée, mais d'un autre côté, ça les embête parce que ils savent que s'ils se font arrêter, ils peuvent avoir une saisie du véhicule.
Pour le moment, aucune date de retour à la normale n'a été annoncée.
Et vous allez témoigner peut-être ce matin, la NTS, il y a le hacking, hein, il y a le piratage des données, et puis il y a le temps de remettre le site en marche. Vous devez, passer le permis, vous êtes moniteur d'auto-école, passez-nous un coup de fil au 3216 pour nous dire la galère que c'est en ce moment.
Les États-Unis ont vaincu militairement l'Iran. Nouvelle affirmation de Donald Trump cette nuit, à l'heure où Washington n'a toujours pas répondu à la nouvelle proposition de Téhéran qui prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz contre un report des négociations sur le nucléaire iranien. Et puis la première Coupe d'Europe de la saison pour un club français en basket. Bourg-en-Bresse a remporté l'Eurocoupe hier soir 73-71 face aux Turcs du Beşiktaş Istanbul. C'est le premier succès européen pour les Bressans.
Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal, il est 7h09.
Corner pour le PSG, c'est parti pour Dembélé, premier poteau, la tête, et but, le but, le but, le but, Joao Neves pour le coup de tête.
Et premier tout de suite, en direct, on retrouve Jean-Louis Tour, la voix du foot sur RMC, au commentaire de ce match légendaire hier soir entre le PSG et le Bayern. Jean-Louis, bonjour, première question, ça va la voix
bonjour
ce matin?
Bonjour Mathieu, ça va, on fait aller, non, ça va.
Parce que 9 buts, c'est une grosse moyenne.
Ah,
quand
c'était
même.
C'était quelque chose.
5-4 pour Paris, scénario incroyable, atmosphère irrespirable en fin de match en particulier. Déjà, le nombre de buts, c'est du jamais vu à ce stade de la compétition, Jean-Louis?
Non, c'est du jamais vu. Même à la mi-temps, il y avait déjà 3-2 pour le PSG. On avait déjà l'impression d'avoir vécu 3 matchs en 1. Et 5 buts en demi-finale de Ligue des Champions sur une mi-temps seulement, ça ne s'était jamais vu. Donc 9 en un match, non, c'est historique.
À un moment du match, les Parisiens ont mené 5-2. Le Bayern est remonté fort, 5-4 à la fin du match. Est-ce que ce matin, le PSG doit quand même avoir des regrets, Jean-Louis?
On peut se dire ça quand on passe de 5-2 à 5-4, parce que évidemment c'est pas la même chose avant le match retour. Aller à Munich avec un seul but d'avance, ça n'a rien à voir que s'il y avait une victoire 5-2. Mais en même temps, c'est la difficulté ce matin de faire la part des choses entre le match historique et le fait que sportivement Paris a un avantage minime. Mais en même temps, ça découle du match, c'est-à-dire qu'entre les deux équipes, il y a pas 3 buts d'avance comme il y a eu à un certain moment 5-2. On est plus proche de deux équipes à égalité. Les stats montrent ça, les stats générales du match. Donc c'est déjà bien d'avoir un avantage vu l'opposition des forces entre les deux équipes.
C'est déjà bien d'avoir un avantage face au Bayern Munich, on est d'accord. Eric est en ligne avec nous, on va l'accueillir, Jean-Louis. Eric en Haute-Garonne, et j'ai demandé, vous n'êtes pas supporter du PSG, appelez-nous. Eric, il regarde même pas le foot d'habitude. Bonjour Eric.
Bonjour.
Plutôt rugby d'habitude, hein?
Chez nous, en fait, à Toulouse, on a plus le rugby qui coule dans les veines, quoi.
Donc, et vous avez regardé quand même hier soir?
J'avais 2 heures à tuer hier, juste avant d'aller au lit, quoi, tranquille, quoi. Et je me suis dit, bon, c'est mardi, allez, je vais regarder ce match de demi-finale. Mais j'ai été agréablement surpris.
C'est pas tout le temps comme ça, le foot, hein, faut vous préciser, alors, si vous n'avez pas l'habitude.
Ah ouais, et je peux vous dire que si vous mettez des foot comme ça, des matchs de foot en fait à la télé, mais vous allez claquer l'audience.
Eric, il veut des matchs comme ça. On en veut des matchs comme ça tout le temps, Jean-Louis Tour, hein, des 5-4,
oui.
Des matchs.
Alors là, en ce moment, dans le foot, on se dit souvent, et on se dit toujours ça d'ailleurs dans le sport, c'était mieux avant, à l'époque, il y avait moins de matchs, et les matchs qu'on voyait étaient plus qualitatifs, etc. Bon, toute cette réflexion, elle existe, mais franchement, vu le match d'hier, moi, le foot moderne, j'achète, c'est bon, je suis convaincu, et c'est parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas comme ça toutes les semaines. Des matchs de Ligue 1 un peu compliqués, on en a vu plein dans la saison, mais si le point final, c'est cette œuvre d'art qu'on a vue hier avec deux entraîneurs très modernes dans leur approche. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin, mais ce sont les deux entraîneurs et leur façon de voir le foot qui ont permis un tel match et qui ont permis un tel spectacle. Si c'est ça la nouvelle tendance du foot, moi je suis OK, hein, ça me va.
On prend Jean-Louis Tour, merci beaucoup, qui était au commentaire hier soir et qui est ce matin à 7h10 pour vous en direct sur RMC. On vous laisse Jean-Louis parce que y en a des soirées spéciales, hein, sur RMC, deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. Ça c'est ce soir, 21h, l'intégralité du match Atlético de Madrid-Arsenal, suivi de l'after-foot, des nuits du Casar enchaînées jusqu'à 1h30. Avant cela, on sera avec Daniel Riolo juste après le journal de 8h tout à l'heure. Merci Jean-Louis, il est 7h13. Les aliments ultra transformés en France, c'est 60% de nos produits alimentaires emballés. Bonjour Karine Jacquemart.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'ONG Foodwatch. Vous venez de lancer une pétition qui réclame un encadrement beaucoup plus strict du marketing autour de ces produits, de la pub notamment, ces produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Trop industriel, on va définir ultra transformé dans un instant, mais ce qu'il faut en interdire la publicité de ces produits, c'est votre parti pris dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h16 sur RMC et RMC Story. Bonjour Karine Jacquemart.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'ONG Foodwatch France et avec Yuka. On connaît l'application Yuka. Et France Asso Santé, vous lancez une pétition pour exiger que l'État encadre enfin la publicité, le marketing autour des aliments ultra transformés. Il faut interdire la pub pour ces produits, c'est votre parti pris. De quoi est-ce qu'on parle d'abord quand on parle d'un produit ultra transformé? Je m'étais noté trop gras, trop sucré, trop salé, mais ça va plus loin, c'est trop d'additifs.
Oui, c'est ça. En fait, c'est des produits qui ont été vraiment beaucoup transformés. Ça veut dire que c'est pas des produits que vous allez retrouver avec des ingrédients que vous allez retrouver dans votre cuisine, quoi. Donc, il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de matières, des épaississants, des conservateurs, des choses qui sont vraiment utilisées dans les processus industriels, mais aussi où vous allez manquer finalement de fibres parce que ça a été cassé. Enfin, voilà. Donc, ce qui est super important surtout, c'est de se dire que aujourd'hui, on est dans une situation où les consommateurs sont effectivement totalement surexposés sans le savoir et sans limite.
Comment justement je sais que je suis face à un produit ultra transformé?
Justement, en fait, ils sont exposés sans le savoir et sans limite. Ça veut dire que, un, il n'y a aucune possibilité pour les consommateurs de le savoir puisque ça n'est pas étiqueté. Et deuxièmement, sans limite, parce qu'il n'y a aucun encadrement sur la part que ça prend dans les rayons sur la publicité. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plus de 60% des produits emballés dans les rayons. Donc c'est plus de la moitié des produits emballés qu'on trouve. Donc c'est des plats transformés, c'est les nuggets, c'est des biscuits, c'est... Foodwatch avait mis une première liste le 7 avril sur le site foodwatch.fr. Vous pouvez trouver 10 exemples de produits aussi qui sont présentés comme relativement bons pour la santé.
Oui, parce que c'est ça, on va parler de la publicité, mais il y a aussi cette idée que dans le marketing, on va nous le vendre, on va nous mettre des mots vertueux, on va nous mettre des petites mascottes, des petits logos.
Oui,
des
puis, vous savez, toutes ces allégations, donc faites très attention à ces allégations, sans sucre ajouté, sans conservateur, enfin sans, ce qu'ils disent surtout pas, c'est ce qu'il y a dedans en revanche.
Ouais.
Donc voilà, donc la seule façon pour les consommateurs de s'en rendre un peu compte aujourd'hui, c'est sur le marqueur des additifs parce que ça, c'est dans la liste des ingrédients. Donc, retournez la liste des ingrédients. Si vous voyez plein de noms bizarres ou des E, etc., ça, c'est tous les additifs. Évitez les listes à rallonge.
C'est mauvais pour la santé, pardon.
Et justement, et en fait, aujourd'hui, il faut le rendre visible. Donc, ce qu'on demande, c'est un étiquetage qui est concomitant avec le Nutri-Score parce que le Nutri-Score, vous connaissez de la lettre A à E, ça donne la qualité nutritionnelle des produits. Donc, ça, il faut vraiment que ça devienne obligatoire à l'échelle européenne.
En plus, il faudra autre chose.
Voilà, et les scientifiques sont en train de travailler sur des options pour ça. Donc, c'est déjà en fait à disposition. Il faut maintenant une décision politique pour dire, eh bien oui, on va l'afficher, que le consommateur soit au moins informé. Et ensuite, il faut protéger les gens de cette surexposition. C'est pas normal parce qu'il y a une centaine d'études scientifiques. Il y a eu des publications dans la revue scientifique The Lancet en novembre qui a compilé tout ça et qui confirme clairement qu'il y a des risques pour la santé sur une grosse consommation de ces produits ultra transformés. Il y a des risques pour la santé, de maladies
cardiovasculaires, certains cancers
de maladies chroniques. Et donc toute cette malbouffe en fait a un coût humain et un coût économique absolument phénoménal. La responsabilité, elle porte encore une fois sur l'industrie agroalimentaire et ce qu'ils mettent dans les rayons, sur la grande distribution et le choix qu'ils laissent ou pas et la transparence ou pas pour les consommateurs et les autorités publiques. C'est pour ça que Emmanuel Macron a dit on va encadrer l'alimentation ultra transformée. On attend des mesures concrètes.
Et parmi les mesures que vous suggérez, il y a l'encadrement de la publicité, du marketing, d'un mot, l'interdire pour tout ce qui est autour des programmes pour mineurs.
Oui, en fait, on demande depuis des années l'interdiction du marketing, de la publicité, notamment qui cible les enfants, en effet, pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Il faut rajouter et ultra transformés pour enfin protéger les consommateurs et surtout arrêter de les exposer comme ça, impunément et sans aucune transparence.
Faut-il avoir le choix, voilà, et pouvoir faire un choix éclairé quand on est en rayon, justement.
C'est pour ça que ça va aussi avec les campagnes de Foodwatch et de ses alliés sur la question des prix. Et il faut aussi qu'il y ait 100 produits recommandés pour la santé à prix coûtant. Donc il faut que ce soit disponible, transparent et accessible. L'alimentation saine, choisie, durable, c'est un droit fondamental pour toutes et tous.
Merci Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. Foodwatch et ses alliés, je les cite, Yuka et France Asso Santé, pour cet encadrement autour des produits ultra transformés. 60% de ce qu'on trouve en rayon hein, quand c'est emballé, en dehors des fruits et légumes bien entendu. Merci beaucoup.
Merci
Karine Jacquemart. Il est 7h21. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle ce matin ?
Eh bien, on parle des langues régionales, puisque figurez-vous qu'il y a une bataille encore sur les langues régionales et que le pouvoir en France n'a jamais aimé ça. Il y a deux siècles, à peine 10% des Français parlaient français.
Et puis Arnaud Demange pirate le face-à-face, c'est Sébastien Chenu du RN. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h22 sur RMC, RMC Story, quand l'histoire éclaire notre actualité. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Mathieu.
Hier, plusieurs établissements scolaires étaient bloqués en Corse. Une mobilisation lycéenne en faveur des écoles immersives qu'on appelle Scola Corsa, c'est-à-dire des écoles où il y a un enseignement en langue corse.
Ah oui, les élèves ont mis des poubelles pour barrer l'accès à l'établissement. Ils ont aussi déployé des banderoles où était inscrite cette phrase « Lingua faci populo ». Alors c'est du corse hein, en français, ça veut dire « la langue fait le peuple ». Alors tout ça vient d'une inquiétude sur l'avenir de ces établissements où une partie de l'enseignement est donc dispensée en Corse. D'après les manifestants, l'État ne serait pas prêt à payer les salaires des enseignants alors qu'apparemment il s'y était engagé auparavant. Bref, c'est un nouvel épisode de la guerre pour les langues régionales.
Une guerre en France, comment dire, c'est un combat très ancien.
Oui, puisqu'en fait, notre particularité en France, c'est qu'on a toujours été hyper intolérant avec les langues régionales. Ça a commencé très tôt. À l'origine, le français, on appelait ça le françois, et ça faisait référence à une langue qu'on parlait surtout dans une région. Cette région, c'est la Touraine. Pourquoi la Touraine ? Eh bien parce que les rois passaient la plupart de leur temps dans cette région où ils chassaient, hein, là-bas. Et la règle, c'était que le bon français, c'était en fait celui que le roi parlait, avec son accent, ses mots, sa prononciation, et donc le but c'était de l'imiter. Vous voyez, le mépris pour les patois, ça date pas d'hier.
Alors, j'imagine que certains de nos rois ne venaient pas de Paris et parlaient eux-mêmes une forme de patois.
Alors, en fait, c'était assez rare, mais il y en a un, oui, particulièrement. Et ce roi, c'est Henri IV, hein, qui régnait à la fin du XVIe siècle. Il était originaire de la ville de Pau, donc très loin de la capitale. Et quand il devient roi, il débarque à Paris avec son accent du sud-ouest à couper au couteau. Et alors, autant vous dire que ça a choqué absolument tout le monde. Il parlait avec des expressions gasconnes que personne ne comprenait. D'ailleurs, il les mettait aussi à l'écrit, ces expressions. Mais bon, comme c'était le roi, tout le monde a fini par s'y faire. Et même, figurez-vous, à l'imiter.
Mais en France, majoritairement, on parlait quelle langue ?
Alors, une statistique très parlante et un peu étonnante. En 1789, donc c'est l'année de la Révolution française, sur 28 millions d'habitants en France, il n'y avait que 3 millions de Français qui parlaient le français. Donc à peine 10%, hein, c'était seulement il y a deux siècles. Les autres parlaient en fait un dialecte local. Le français, si vous voulez, c'était la langue des riches qu'on parlait dans les villes. Et un des buts de la Révolution française, ça va justement être d'imposer le français sur tout le territoire, y compris dans les campagnes. Alors vous me direz, pourquoi faire ? Eh bien parce qu'on voulait centraliser le pouvoir politique autour de Paris. Et donc ça passait par la langue de Paris, le français.
Et comment on va faire ?
Eh bien, on va employer la méthode forte à la française. Hein. En 1794, donc juste après la Révolution, on fait passer un décret pour, je cite, « anéantir tous les patois ». Donc c'était clair.
Anéantir.
Anéantir. Anéantir. Et on impose la rédaction en français de tous les actes officiels. Donc si vous ne compreniez pas, tant pis pour vous. Et ça va fonctionner, mais lentement. En 1900, 25% des Français parlaient encore une langue régionale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3%.
Merci beaucoup Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin qu'on réécoute en chronique, en podcast sur l'application RMC. Il est 7h25.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud Demange.
Et bonjour Mathieu Bélier.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Sébastien Chenu, vice-président du RN, vice-président de l'Assemblée Nationale.
Et oui. Non, mais on a failli l'annuler et le remplacer par Daniel Riolo parce que le PSG a battu le Bayern de Munich 5-4 dans un match génial que j'ai pas vu, je dormais. Et puis, on s'est dit, bon, une bagarre franco-allemande, ça peut lui plaire à Chenu. Alors sinon, Emmanuel Macron a qualifié de maboule les gens qui veulent se fâcher avec l'Algérie, car un tiers des 19 000 médecins en France ont obtenu leur diplôme en Algérie. Et déjà,
qu'on les envoie vivre à Charleville-Mézières, on va pas leur donner des raisons en plus d'être fâchés avec nous, hein. C'est vrai qu'il faut être un peu fou pour vivre là-bas. C'est des docteurs maboule.
Je suis fou.
Et Marine Le Pen a critiqué la trumpisation d'Emmanuel Macron. Alors on en est loin quand même, hein. D'ici à ce que Macron nous propose de boire de l'eau de Javel et jouer au golf 3 fois par semaine et aime les jeunes filles et attaque des pays étrangers et muselle les médias et truque les marchés et soutienne Marine Le Pen comme l'original, eh ben on a un peu de temps. Alors Sébastien Chenu réagira aussi au rapport du député bolloriste Charles Alloncle. Vous savez qu'il aime la culture, Chenu. Il a commencé en politique comme vice-président de la communauté d'agglomération chargée du tourisme à Beauvais. Et oui, fallait y croire, le tourisme à Beauvais. Non mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il y avait une dualité intérieure. Le responsable du tourisme veut faire venir des étrangers. Le futur vice-président du RN préférerait qu'ils partent. Ce qui explique l'un dans l'autre que le tourisme à Beauvais est pas explosé sous Sébastien Chenu. Donc la culture, c'est son dada. Et dans le rapport à l'oncle, on apprend des trucs passionnants. France 4 marche pas. Waouh, France Inter est de gauche. Oh mon Dieu, il pleut des scoops. Le festival de Cannes, c'est cher pour le couvrir. Je ne sais pas si on gâche des sous dans l'audiovisuel public, mais en tout cas, ce rapport, c'est de l'argent de l'État bien employé. Et alors, autre sujet, la présidentielle. Vous avez vu, Hélène Mercier-Arnaud, c'est la femme de Bernard Arnault. Elle a déclaré qu'en 2027, entre Bardella et Mélenchon, elle choisirait Mélenchon. C'est vexant pour le RN. Et d'un côté, t'as les insoumis qui veulent te taxer tout ton argent et te mettre en camp de redressement. Et de l'autre, le RN qui est là, bonjour madame, s'il vous plaît. Tu choisis quand même les insoumis. Ceci dit, je la comprends, hein. Elle est violoniste et femme de l'homme le plus riche de France. D'un côté, t'as le RN qui veut sabrer les crédits de la culture. De l'autre, les insoumis qui veulent couper la tête de ton époux. Un héritage de cette taille-là, c'est dur de dire non. Donc je la comprends. Rendez-vous avec Chenu à 8h30.
Il est 7h28. Merci Arnaud Demanche. Sébastien Chenu à 8h30. On revient dans un instant pour la météo et le journal. Il est 7h30. Encore chaud aujourd'hui ?
Oui, de la douceur et de la chaleur, notamment dans le sud-ouest. Ce sera en Poitou-Charentes. Partout ailleurs, il y aura du soleil, mais surtout ces orages dans l'ouest du pays. Ils sont déjà bien présents en Bretagne ce matin. De la douceur et de la chaleur, on l'a annoncé cet après-midi. Il fera 23 degrés à Rennes, 25 à Montélimar, 26 à Cognac et jusqu'à 28 degrés près de Poitiers.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
7h31.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un nouveau nom, mais les mêmes dérives. Enquête ouverte après la réapparition du site Coco. RMC a fait le test des prédateurs sexuels. Ils discutent toujours dans le plus pur anonymat. Une réunion qui termine très mal au BHV des représentants syndicaux évacués du grand magasin parisien, menottés par la police. Et puis le PSG se déplacera avec un but d'avance à Munich la semaine prochaine. Victoire 5-4 des Parisiens en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Le parquet de Paris enquête donc sur la réapparition d'un site bien connu des autorités.
Le site Coco, qui s'appelle désormais Cocoland, un chat connu notamment pour héberger de nombreux prédateurs et pour avoir facilité des guet-apens homophobes et des viols. Coco apparaissait dans 23 000 affaires pénales, notamment celle de Mazan. C'est sur ce site que Dominique Pellicot a recruté les dizaines d'hommes venus violer sa femme. Site fermé par la justice il y a près d'un an et qui est donc de retour. Julie Bro, vous avez enquêté pour RMC, rien n'a changé. Et le constat est terrifiant.
Oui, en quelques clics sur Cocoland, je crée le faux profil de Lola, 13 ans, sans faire face à aucune restriction d'âge. 30 secondes plus tard, je reçois deux messages d'hommes âgés de plus de 40 ans qui me demandent de leur envoyer des photos de moi nu. En 10 minutes, ce sont plus de 15 hommes qui me contactent, tous adultes, tous informés de mon âge et qui m'envoient pourtant des photos de leur sexe en érection ou bien des propositions d'actes sexuels. Un mécanisme effrayant, dénonce Solène Potvin-Fabre, présidente de l'association Face à l'inceste.
Ce qui se joue en ligne se rejoue souvent hors ligne. On le sait, les personnes qui passent à l'acte ont pour la plupart consommé des images, sont rentrées en relation avec des mineurs via les réseaux sociaux. Chaque jour qui passe avec ce site ouvert, c'est un jour de danger pour des enfants.
L'association qui a lancé une pétition pour la fermeture de cette plateforme s'inquiète désormais des délais, car il avait fallu plus d'un mois et demi aux autorités pour fermer la précédente version du site en 2024 et qui était hébergée sous des faux noms et camouflée dans différents pays à travers le monde.
Enquête signée Julie Brault du service police-justice d'RMC.
Et juste après ce journal, on sera avec la haute commissaire à l'enfance. C'est plus possible que ces sites continuent de prospérer sur le net. Sarah El Haïry, ses réponses juste après le journal, dans un instant.
Le BHV n'en finit plus de faire parler de lui, le grand magasin parisien, au cœur d'une nouvelle polémique après l'arrivée de Chine dans ses rayons. Hier, une réunion a dégénéré. Deux représentants syndicaux évacués par la police. Philippine Boulet, ils ont même été menottés.
Tout part d'une banale réunion consacrée aux futures élections syndicales. Deux syndicalistes qui ne font pas partie de l'entreprise souhaitent y participer. L'un du syndicat du commerce et services indépendants démocratiques, l'autre du syndicat des Gilets jaunes. Mais dès leur arrivée, la direction du BHV leur demande de partir. Eux assurent que la loi les autorise à assister à cette réunion. Le ton monte. La direction parle de propos virulents, racistes, ce que démentent les deux représentants. Ils sont finalement embarqués par les forces de l'ordre. L'un d'eux est même menacé. Noté, ils seront relâchés sans poursuite. Dans un communiqué, l'intersyndicale du BHV dénonce une exclusion illégale. La direction, elle, condamne fermement ces intrusions.
Le projet de loi sur le travail, le 1er mai, arrive en Conseil des ministres ce matin.
Pour encadrer dès l'année prochaine le travail des boulangers et des fleuristes en ce jour traditionnellement chômé, le gouvernement a dû retravailler son texte après une forte opposition des syndicats et de la gauche. Version un peu plus restrictive, Cyprien Pézril.
Les boulangers, pâtissiers, les fleuristes, voici donc les seules et uniques professions que le projet de loi autorise à travailler le 1er mai, à condition, exigence de Sébastien Lecornu, que ce soit des artisans, que les salariés aient fait savoir par écrit qu'ils sont volontaires et qu'ils soient au moins payés double, des restrictions. Pas question donc que tous les commerces puissent ouvrir. Aux grandes dames des représentants du patronat qui l'ont fait savoir au gouvernement, les bouchers, les poissonniers notamment, mais même très encadrés, ça ne rend pas le projet de loi acceptable aux yeux des syndicats, partisans du repos les jours fériés. Ces positions seront forcément reprise lors de l'examen au Parlement, ce qui laisse présager encore des débats tendus. Le texte s'appliquera au plus tôt le 1er mai 2027. Quant à cette année, officiellement, les boulangers et les fleuristes qui font travailler leurs salariés pourront toujours être sanctionnés vendredi, même si le gouvernement appelle les inspecteurs à la clémence.
Les États-Unis ont, je cite, vaincu militairement l'Iran. C'est ce que dit Donald Trump en présence du roi britannique Charles III, alors qu'aujourd'hui son ministre de la Défense, Pete Hegseth, doit s'expliquer devant les députés américains sur l'enlisement de cette guerre.
Et puis c'était peut-être le plus beau match de l'année. Le PSG est venu à bout du Bayern hier soir.
Au terme d'une rencontre folle, 9 buts inscrits au total, victoire 5-4 des Parisiens, eux qui menaient 5-2. Ils se déplaceront donc la semaine prochaine avec un petit but d'avance, ce que regrette Vitinha, milieu de terrain parisien.
C'est vrai qu'on a eu un avantage plus important, mais c'est Bayern en face. Donc eux, ils disent aussi qu'ils avaient un bout d'écart au début. Nous, on a repris, après c'est eux. Le plus important, c'est qu'on a gagné, on a un bout d'écart. C'est important aussi de dire que ça signifie absolument rien, parce que ça va être un grand match là-bas aussi, et tout peut changer dans une minute.
Match retour de cette demi-finale mercredi prochain. Et ce soir, ne manquez pas l'autre demi-finale, Atlético-Arsenal. La dernière demi de Ligue des Champions d'Antoine Griezmann. Match à vivre sur RMC à partir de 21h. Les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan-Cortina seront décorés en fin de matinée à l'Elysée. 23 médailles au total, c'est un record pour les Jeux d'hiver. L'occasion aussi, selon la présidence de la République, de se projeter vers les Alpes 2030 qui s'organisent avec quelques difficultés. Le tournoi masculin de hockey sur glace devait se tenir à Nice, mais le nouveau maire Éric Ciotti s'y oppose. Diane Carlotti, cela pourrait finalement se tenir à Lyon ou à Paris.
On le sait depuis quelques semaines, la ville de Lyon est candidate pour accueillir le tournoi de hockey sur glace masculin, l'une des disciplines phares des Jeux d'hiver. Et hier, le maire Grégory Doucet a confirmé l'intérêt de sa commune en postant sur ses réseaux sociaux une vidéo où il se met en scène, patin au pied, pour vanter les atouts olympiques de sa ville, parmi lesquels la LDLC Arena, qui accueillera déjà une partie des championnats du monde de hockey en 2028. Des championnats du monde qui se dérouleront également à l'Accor Arena de Paris. La capitale est d'ailleurs la deuxième ville candidate pour accueillir le hockey masculin lors des Jeux olympiques d'hiver. Deux salles ont déjà été identifiées, l'Accor Arena donc et l'Adidas Arena. Pour le moment, aucune décision n'a été officiellement actée. Le comité olympique et paralympique doit annoncer la carte complète des sites pour Alpes 2030 aux alentours du 22 juin.
Et puis le quintet, c'est à Laval, départ 13h55.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 4, Gérénal d'Ameline. L'outsider, c'est le numéro 3, Key of Love, le 4 et le 3.
Merci beaucoup Clara Gabillet. On a entendu Vitinha du Paris Saint-Germain dans votre journal. On va écouter Ali des Bouches-du-Rhône au 32-16 ce matin. Bonjour Ali.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC. Ce matin, j'ai posé cette question, est-ce qu'il n'y a que les supporters parisiens qui ont vibré hier soir? Je crois que la réponse est non.
La,
On était avec un Toulousain fan de rugby tout à l'heure. Et vous, Ali, vous êtes supporter de l'OM?
Ah oui, moi je suis supporter de l'OM. Vous savez quand même que c'est très compliqué. C'est très difficile de dire à un Marseillais d'aimer le Paris Saint-Germain. C'est très compliqué. Mais vous savez, quand on voit un football comme ça, on peut que féliciter les Parisiens. Parce qu'hier, ils nous ont fourni un spectacle formidable. Je pense quand même que tous les abonnés de Canal hier soir, ils en ont eu pour leur argent. Contrairement au championnat, ce que nous fournissent chaque samedi dimanche, je pense quand même qu'hier, le Paris Saint-Germain, ils ont montré un football fantastique et que ça restera dans les annales du football.
Merci Ali. Je pense aussi que ceux qui ont vu ce match, ceux qui y étaient encore plus, mais ceux qui ont vu ce match s'en rappelleront. Je ne sais pas si on a déjà vu beaucoup de matchs de cet ordre-là. En tout cas, merci Ali, supporter de l'Olympique de Marseille qui salue le jeu d'hier soir. C'est quand même à souligner. Merci d'avoir composé le 32-16 ce matin. Vous continuez à réagir comme vous le faites nombreux au 32-16 sur le WhatsApp RMC aussi au 06 12 424 424. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le site Coco est de retour, fermé par la justice en 2024. Il réapparaît sous un nouveau nom, une nouvelle adresse, Coco Land. Toujours aucun contrôle, ni aucune vérification d'âge. Comment ce site, aux 23 000 affaires pénales, a-t-il pu renaître? Le site qui a servi à Dominique Pellicot pour recruter des violeurs, un repère de pédocriminels. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, est notre invitée dans un instant. C'est sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
7h43, bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC. Je vous souhaite un bon réveil, même si cette actu risque de vous rebuter. Le site Coco est de retour. Fermé en juin 2024, il ressurgit sous un nouveau nom, Cocoland. Petit rappel, 23 000 affaires pénales pour le site Coco. Il y a des agressions sexuelles sur mineurs, des viols, des trafics de stupes, des violences homophobes. C'est sur cette plateforme que Dominique Pellicot recrutait les violeurs de sa femme. Un site qui promet des rencontres amoureuses sans filtre, des salons de discussion en ligne. C'est surtout un saloon numérique poisseux. Bonjour Sarah El Haïry.
Bonjour.
Vous êtes haute commissaire à l'enfance. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à l'unité cyber de la gendarmerie. Ça fait 2 semaines que des alertes sont émises sur le retour de cette plateforme. En combien de temps est-ce qu'on peut espérer sa fermeture?
Écoutez, en quelques jours, les enquêtes ont été lancées et le parquet de Paris s'est saisi. C'est important. Mais faut pas être naïf. Hein. Le retour de Coco, il a pas été découvert par hasard. Il a été identifié, il a été documenté, il a été analysé. On est en veille active. Mais à chaque fois, faut arrêter de parler de dérive numérique. À chaque fois qu'il y aura des espaces comme ça, qui vont renaître, alors qu'on les a fermés, qui ont les mêmes infrastructures, qui ont en réalité les mêmes objectifs, les mêmes usages, c'est les mêmes interfaces. Alors il y a des angles morts.
Et combien de temps va mettre à le fermer, Sarah El Haïry?
C'est la justice qui tranchera. Aujourd'hui, la justice est en cours, l'enquête est en cours, et c'est à la justice de poser le délai. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ça prendra X jours, X semaines.
Parce que la réalité, c'est que pendant ce temps, évidemment, il reste actif. Notre journaliste, vous l'avez peut-être entendu, c'était dans le journal de 7h30 de Clara Gabi, et notre journaliste du service police-justice, Julie Brault, a fait une expérience hier. En quelques clics sur Cocoland, elle a créé le faux profil de Lola, 13 ans, et son récit. 30 secondes plus tard, je reçois 2 messages d'hommes âgés de plus de 40 ans qui me demandent de leur envoyer des photos de moi nu. Plus de 15 hommes en 10 minutes. 15 hommes en 10 minutes, tous adultes, tous informés de l'âge de 13 ans, qui envoient des photos de leur sexe en érection ou des propositions d'actes sexuels. En fait, au moment où on est en train de se parler, Sarah El Haïry, il y a des mineurs qui sont approchés par des pédocriminels.
Bien sûr, mais vous savez, moi, c'est tous les jours, je fais ça. Tous les jours, je lutte contre ces plateformes et on essaye de protéger les enfants dans la rue et en ligne. Tous les jours, on a fait plus de... franchement... une dizaine de signalements. On a encore 2 signalements qui sont en cours sur legarçon.net et chat. On a une troisième.
C'est quoi ces sites, legarçon.net et chat?
C'est également des sites qui aujourd'hui donnent finalement mettent en contact des pédocriminels parce qu'il n'y a pas de vérification d'âge, parce qu'il y a des messages à caractère sexuel et qui sont transmis aux utilisateurs, parce que le contrôle d'âge est pas robuste, parce que les enfants et des mineurs sont accostés par des prédateurs. C'est là où il faut mettre fin à ces zones grises. C'est pas
donc on fait quoi sur legarçonnet.fr?
Eh ben j'ai engagé comme pour Cocoland une saisine du procureur de la République, une plateforme et une saisine Pharos et une saisine Arcom. Quand je vous dis qu'on les traque et que pour le coup on ne les lâche pas, à chaque fois on engage l'ensemble des procédures possibles pour que ils fassent la fermeture du site et qu'ils engagent la responsabilité. Moi, je veux qu'on arrête exclusivement de se dire « bon, bah le site s'est arrêté, ouf ». La réalité, c'est pas ça. C'est qu'il faut engager la responsabilité de tout le monde, comme on l'avait fait, comme je l'avais fait avec les poupées pédocriminelles. Il faut aller chercher les hommes qui, aujourd'hui, envoient ces images. Il faut aller engager la responsabilité de l'hébergeur et de l'éditeur, celui qui accepte qu'il n'y ait aucun contrôle d'âge, alors qu'il sait que sur son site, il vend en réalité. Hein, faut pas
il y a d'autres sites qui sont dans votre viseur, Sarah Alaïri.
Bah, Chatoui, qui est en cours aussi, parce que, pareil, il n'y a pas de contrôle d'âge, parce qu'il y a des prédateurs, et la justice est saisie à chaque fois. Je vais être très clair. La logique, aujourd'hui, il faut imposer, dès la conception de ces plateformes, des mécanismes de détention qui permettent d'alerter et qui empêchent, finalement, ces zones grises.
Des la mécanismes de détention, ça veut dire quoi, Sarah Alaïri?
Aujourd'hui, les mécanismes de détection, c'est la manière dont on va tout de suite reconnaître, une image. Il ne faut pas d'échappatoire. Aujourd'hui, tant que la responsabilité, elle est fragmentée, elle restera très inefficace. Et c'est le problème. Et pendant ce temps-là, il y a des victimes, il y a des jeunes filles, il y a aujourd'hui même des jeunes garçons. C'est garçon.net, c'est ça, hein?
Oui, je note, le garçon.net et chat.fr pour lesquels il y a des procédures engagées que vous avez en tout cas saisies, Arcom et Pharos, et un autre site Chatoui où ça se constitue. Je reviens sur le retour de la plateforme Coco sous la forme Cocoland. Vous avez menacé Sarah Alaïri, on peut pas vous l'enlever, des procédures, je vous cite, des procédures lancées qui permettront de les faire fermer, on les traquera, on les harcèlera, on leur laissera pas de répit. Ça, c'est votre promesse. Mais en fait, quand on vous entend et on vous entend répéter, malgré une forme de sincérité, Sarah Alaïri, je me dis que moi, par exemple, je suis parent d'ado, ils seront majeurs avant qu'on ait changé les règlements.
Non mais attendez, on va être très clair. On a réussi à fermer plusieurs sites. Mais à chaque fois qu'on en ferme un, vous pensez qu'il se passe quoi? Il y en a 10 qui se créent. Qui est le responsable? Le responsable, c'est le pédocriminel qui est sur cette plateforme et qui essaye d'abuser de nos enfants. Le deuxième responsable, c'est la plateforme qui accepte d'héberger ces horreurs. Le quatrième responsable, c'est celui qui est l'esprit suffisamment tordu pour avoir créé un site comme ça. C'est toute la chaîne qu'il faut aller faire tomber.
Il manque pas un responsable, Sarah Alaïri, et l'hébergeur du site internet, qui aujourd'hui est pénalement très très peu responsabilisé.
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas de fragmentation des responsabilités. Franchement, si c'était dans la rue, si c'était dans la vie réelle, dans la vie, je saurais faire tomber toute la chaîne. Toute la chaîne. Aujourd'hui, dans le web, c'est plus dur. Ils se cachent dans d'autres pays. Ils utilisent même des entreprises pour rendre anonyme soit le détenteur du nom, domaine, soit celui qui bénéficie de l'argent, parce que tout ce trafic sur ces sites génère de l'argent. Ils abusent.
Évidemment que ça génère de l'argent. Évidemment qu'il y a un business.
Et ça génère de l'argent.
Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, ce serait dans la rue avec des commerces, des
je saurais les fermer.
Les locatifs, on saurait le fermer. Là, c'est plus compliqué. CNN parlait en mars. D'Académie mondiale du viol, ça c'est CNN, les Américains, parce que ces sites comme Cocoland permettent d'organiser des viols, mais en fait CNN remontait tout un tas de sites avec des hommes qui s'échangent des conseils pour droguer, pour violer. Académie mondiale du viol, ça donne, Sarah Alaïri, le sentiment qu'on est tous un peu dépassés. Restez en ligne avec nous, il y a Simon qui nous appelle du Rhône ce matin, qui est chef d'entreprise. Bonjour Simon.
Bonjour à toute l'équipe. Bonjour madame, je tenais à intervenir parce que c'est révoltant, je suis désolé, mais votre discours, il est terrible pour les victimes et les gens qui vous écoutent. Je suis navré, mais extrêmement passive, alors qu'aujourd'hui, on peut parfaitement passer au-delà de la loi. Prenez des cybercriminels, allez attaquer ces gens-là, montez une équipe spéciale, bougez-vous, quoi. En fait, en 48 heures, on peut strike un site. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs informatiques qui sont des génies pour aller exploser des sites comme ça. Employez-les, bougez-vous, dégommez-les, exposez ces cybercriminels et ces gens, ces pédocriminels terribles, exposez-les, mettez-les en ligne, vous inquiétez pas, les gens vont faire leur travail, vous inquiétez pas, et puis la justice fera son travail derrière. Alors, mais d'abord, exposez-les.
C'est à la justice de faire son travail, mais Sarah Alaïri, vous avez dit, effectivement, sur la fermeture de ce site-là, c'est la justice qui fera son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens? J'entendais Simon parler d'intervention quasiment de hacker, en fait. Pourquoi, effectivement, on pourrait... Vous avez utilisé le verbe striker, Simon, c'est-à-dire faire tomber le site internet, comme on fait tomber des sites internet publics quand il s'agit de hacking.
Monsieur, on utilise les règles de la loi pour les poursuivre, pour que ces hommes se retrouvent aussi en prison. C'est ça que j'ai fait avec les poupées pédocriminelles. Les hommes qui ont touché les enfants, les hommes qui sont peut-être vos voisins, leur place, elle est en prison, ils sont dangereux. Donc moi, c'est pas que le site qui m'intéresse. C'est les hommes qui traquent nos enfants. Donc vous comprenez, mais c'est ce qu'on fait en fait. C'est ce qu'on fait avec les équipes, pour le coup cyber de la gendarmerie, c'est ce qu'on fait avec l'OFMIN, C'est ce qu'on fait également avec des associations qui s'appellent des signaleurs de confiance. Et je comprends votre colère. Moi aussi, ça me met en colère. Mais vous pouvez pas dire que c'est inutile. C'est pas vrai. Parce que des sites, on en ferme. Et moi, mon sujet, c'est aujourd'hui la chaîne de responsabilité de tout le monde. On va pas s'amuser à chercher au chat et à la souris le site qui s'ouvre, celui qui se ferme, le nouveau nom. La réalité, c'est que sur l'enquête de CNN, Motherless, ça marque quoi? Ça marque la soumission chimique. Des hommes qui décident, parce qu'ils utilisent des médicaments, parce qu'ils utilisent...
Le modèle
malheureusement,
Bellico,
des guet-apens, d'endormir, exactement, d'endormir pour le coup leurs femmes. Mmh. Et cette soumission chimique, on la retrouve aussi sur des enfants. Aussi
merci
sur
Sarah
des enfants.
Larry. Merci
donc,
beaucoup.
Soyons très clairs, un signalement, toujours signaler quand on voit des horreurs. Et pour le coup, on va être très clair, dire à ceux qui échangent ces images et ces photos, oui, on les retrouvera, et oui, ils seront, on engagera des responsabilités pénales contre ces personnes.
On suivra évidemment ce dossier, Sarah Larry. Haute commissaire à l'enfance, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je remercie aussi Simon qui portait une forme de colère que beaucoup doivent partager derrière le poste aussi. L'engagement à la fois de l'État et de nous, citoyens aussi, vis-à-vis de la pédocriminalité en ligne notamment. Merci Sarah Alayri, il est 7h52. Dans un instant, la voix de droite d'RMC, c'est Charles Consigny avec la métropole Aix-Marseille qui n'a pas de budget 2026. Elle est sur la paille et risque une mise sous tutelle. Bonjour Charles.
Bonjour.
Vous nous dites en gros qu'il faut bien regarder ce qui se passe là-bas parce que ça nous attend ailleurs.
Je pense que la mise sous tutelle de Marseille par l'État préfigure la mise sous tutelle de l'État par la Banque Centrale Européenne ou le Fonds Monétaire International.
A tout de suite sur RMC et RMC Story, 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du bonus. Élise, est-ce que Lady Gaga s'habille en Prada?
Eh ben, ce qui est certain, c'est que ce sont ses chansons qui vont en partie habiller le deuxième opus du Diable s'habille en Prada qui sort aujourd'hui en salle 20 ans après le premier volet qui avait rencontré un succès planétaire. Meryl Streep et Anne Hathaway sur du Gaga, ça promet. Et pour l'occasion, la chanteuse a sorti le clip de son titre Runway qui porte le nom du magazine de mode iconique du film. Un titre hyper dansant en duo avec la rappeuse Doshi avec laquelle elle répète qu'elle est née pour le runway, autrement dit pour les podiums. Et c'est bien simple, ce clip, c'est un défilé de mode géant avec des tas de références au milieu. L'une des tenues de Gaga est d'ailleurs signée John Galliano. Les références à la mode sont partout et c'est, je l'ai dit, iconique.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h55 sur RMC et RMC Story. Notre voix de droite ce matin, c'est Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour.
La métropole Aix-Marseille n'a plus un copec. Il manque 123 millions d'euros dans les caisses pour présenter un budget à l'équilibre. C'est inédit pour une collectivité de cette taille. La métropole risque la mise sous tutelle de l'État. Charles, pour vous, ce qui arrive à Aix-Marseille, ça va arriver aussi à la France?
En tout cas, je trouve que c'est très intéressant de voir que les finances publiques dans notre pays sont aussi mal tenues au niveau national qu'au niveau local. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de constater pourquoi la métropole d'Aix-Marseille se trouve dans cette situation. De leur aveu même, c'est dû notamment à la gratuité des transports qui a été mise en place pendant la mandature précédente, qui a gravement creusé le déficit de cette métropole, ce qui ne surprendra personne, puisque en matière de services publics, rien n'est vraiment gratuit.
Laisse enlever ce chaton.
Rien n'est vraiment gratuit.
La gratuité, ça se paye à un moment.
Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Donc là, en l'occurrence, ce sera le contribuable. Évidemment, cela dit, le transport est déjà largement gratuit dans beaucoup de villes où les gens ne payent tout simplement pas leur transport, même quand il est payant. Ça, c'est un autre problème. Mais ça fait que, à la fin, vous payez l'addition. Et aujourd'hui, l'addition est très lourde pour cette métropole.
Ce que vous dites, en fait, c'est que les finances publiques vont mal partout, que ce soit au niveau local ou au niveau national. L'État dépense trop d'argent.
Alors, l'État dépense trop d'argent. Autre sujet qui me paraît intéressant, en l'occurrence, c'est que vous avez trop peu de gens qui payent l'impôt, en réalité, à Aix-Marseille. Vous avez 50% à peu près de la population l'impôt qui est imposable à l'impôt sur le revenu. Donc c'est trop faible. Il peut pas y avoir seulement la moitié des gens qui payent des impôts et en plus offrir des services publics gratuits. Il faut, à mon avis, choisir entre les deux. Premier élément. Et deuxième élément, moi je pense effectivement que il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est l'échelon métropole, parce que je me suis documenté sur le sujet. En réalité, l'échelon métropole créé par François Hollande, qui est une nouvelle couche administrative, on dit tout le temps qu'on veut réduire les couches administratives, etc. Là, Hollande en a créé une nouvelle qui englobe donc Aix, Marseille, mais aussi quelques communes de ce coin-là. En réalité, complique les choses parce que mutualise des moyens et doit arbitrer entre des besoins très différents selon les villes. Par exemple, Marseille a un problème de transport, ils doivent augmenter leur offre de transport public. À leur place, je ne le ferai pas gratuit d'ailleurs, mais il y a un problème de transport collectif. Ce n'est pas forcément le cas des villes autour. Et donc, la métropole se retrouve à devoir investir dans des infrastructures très coûteuses au détriment d'autres villes, etc. Donc moi, je fais aussi une proposition simple qui est de supprimer cette connerie qui est l'échelon de la métropole. Je veux dire, Marseille est une ville suffisamment grande, Aix est une ville suffisamment grande. Pour s'administrer elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de la métropole.
Et pour vous, la mise sous tutelle de certaines collectivités, elle pourrait préfigurer celle de l'État français par la Banque Centrale Européenne ou le FMI?
Alors, si on élargit effectivement un peu le spectre, effectivement, à l'échelon national, nous avons les mêmes problèmes qu'à l'échelon local. Et ce que disent, malheureusement, sous le manteau, mais de moins en moins sous le manteau, de moins en moins en chuchotant, nos élites économiques, vous interrogez aujourd'hui n'importe quel grand patron, n'importe quel ancien grand ministre ou même ministre en exercice, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils attendent tranquillement que la France se retrouve à la limite du défaut de paiement, pour que la Banque Centrale Européenne, avant le FMI, nous impose des règles extrêmement strictes, comme ça a été le cas par exemple en Grèce, et qu'on fasse à ce moment-là les réformes qui s'imposent. Mais on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, Charles Consigny.
On n'est pas loin.
Merci beaucoup. La voix de droite ce matin sur RMC. Demain matin, la voix de gauche, c'est Cécile Duflot. Dans un instant, vous restez avec nous. La météo, bien sûr. Le journal aussi. Le PSG vainqueur du Bayern au terme d'un match historique en demi-finale aller de Ligue des Champions. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline.